Où est-il ton Dieu ? Chers frères et sœurs, si l'on a pour l'habitude de dire que minuit c'est l'heure du crime, j'aurais envie de dire que 20h ou 8h du soir, pour les plus anciens, c'est l'heure de la grand-messe. 20h du soir, c'est le moment où toute la France se réunit pour la grand-messe du journal télévisé. 20h, c'est l'heure où toute la France s'abrutit devant une liturgie immonde. 20h, c'est le moment d'une grande liturgie, un chapelet d'obscénité, de violence, de choses aussi anodines que scandaleuses, des choses aussi merveilleuses que des étoiles, des stars de passage. 20h, c'est le moment où finalement tout le monde va être ému, du dernier soldat français mort en Afghanistan, que de ces pauvres animaux maltraités dans une ferme, dans le fond de l'Oise. Et puis à la fin de la liturgie, qui dure qu'une demi-heure, c'est quand même assez court, assez pratique, surtout que les fauteuils sont plutôt confortables en général. La grande question, le grand psaume qui sort du cœur de chacun, où est-il ton Dieu ? La grande prière qui est faite à l'Église de la part de toute la France, où est-il ton Dieu ? Que fait-il ton Dieu ? Pourquoi a-t-il permis cela ? Sur un air de reproche et peut-être sur un air de prière. La réponse de l'Église, elle est très pauvre. La réponse de l'Église, c'est « Pourquoi cette souffrance ? Je ne sais pas. » L'Église ne peut pas répondre à la question du mal. L'Église ne peut pas accuser Dieu de ne pas avoir été là. Face au mal, l'Église dit « On n'a pas de réponse. » La seule réponse que nous ayons, peut-être, c'est ce que l'écrivain sacré, dans la parole de Dieu, a écrit dans la Genèse, pour essayer de donner du sens, comment le mal a pu arriver dans le cœur de l'homme qui est capable de si belles choses, de si bonnes choses. La seule réponse de l'Église, c'est que par rapport au mal, on ne sait pas quoi répondre. On ne sait pas. Il n'y a pas de solution miracle. L'Église n'est pas une grande caisse à outils où on trouverait des outils, des moyens, ou une philosophie où on trouverait des belles idées pour essayer de peindre en rose un monde qui n'est pas forcément toute lumière. La seule réponse de l'Église, c'est que c'est une personne. On ne sait pas pourquoi il y a le mal, mais on sait comment s'en sortir. On ne sait pas pourquoi nous souffrons, mais l'Église dit « Acceptons, ayons l'humilité d'accepter la réalité du monde, comme un enfant qui ferait un caprice parce qu'il a cassé son jouet, de lui dire « Eh ben, c'est pas de chance, ça arrive que ça se casse. Ben, il faudra t'en trouver un autre, ou accepte qu'il soit cassé. » L'Église dira « Il faut que tu acceptes la réalité, que tu acceptes la souffrance, que tu acceptes la propre souffrance, que tu acceptes le mal que tu es capable de faire, que d'autres sont capables de faire. Et si tu n'es pas capable de dire « je peux faire la même chose », eh bien, c'est que tu n'es pas encore suffisamment grand, que tu n'es pas encore tout à fait capable d'accepter toutes ces choses. L'Église n'a qu'une seule réponse, c'est le Christ. On ne sait pas pourquoi on souffre, mais on sait comment aller mieux. On sait comment trouver le médecin. On sait où le trouver, on sait quel remède prendre. Le Christ, un seul visage pour nous. Et l'Église dira aussi une chose, notamment par rapport aux béatitudes que nous avons aujourd'hui dans l'Évangile. Et c'est pour reprendre une parole du Siracide. Eh bien, les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Dieu est sensible, et bien plus que sensible. Il va même donner son propre fils pour consoler la veuve. Et peut-être même qu'un jour, si je comprends suffisamment, si je grandis suffisamment, si je deviens réellement un homme ou une femme, quel que soit mon âge, eh bien je pourrais peut-être dire que les larmes de la veuve coulent sur mes propres joues. À ces questions, Jésus va tenter de répondre. Nous avons dans l'Évangile, voilà Jésus qui est entouré de toute la foule. Jésus va apporter apparemment une grande réponse. On dit qu'il monte sur la montagne, qu'il s'assied et qu'il ouvre la bouche. Donc, autant de précisions, autant d'explications, ça veut vraiment dire qu'il va se passer quelque chose de grand. Jésus n'est pas venu apporter une solution à nos questions. J'ai envie de dire que Jésus peut-être est venu purifier notre question. Nous avons vu à plusieurs moments dans l'Évangile, et bien notamment je pense au jeune homme riche ou au centurion, « Maître, que faut-il faire pour avoir la vie heureuse ? Que faut-il faire pour avoir le bonheur ? C'est pas tellement pour trouver une solution, comment faire pour avoir du pain ?» Ou comme la Samaritaine, comment je peux faire pour avoir de l'eau ? Non, il y a des questions plus profondes dans la Bible, c'est comment je peux faire pour avoir le bonheur ? Et Jésus va parfois dire des choses assez simples. Suis-moi, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, sois honnête, donne de l'argent aux pauvres, aide les autres, ne fais pas ci, fais ça. Voilà, c'est une bonne caisse à outils que Jésus nous donne et qu'il faut appliquer. Et on trouve beaucoup de ces outils dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, Jésus va nous donner des outils un peu compliqués à comprendre, que sont les béatitudes. Ce n'est pas des choses à faire, ce n'est pas des solutions à nos problèmes, c'est qui es-tu ? Qui es-tu et vraiment, si on peut dire, quels sont vraiment tes problèmes ? Parce que toute la question, c'est ça, c'est quelle est ma place ? Si je cherche Dieu, si je cherche où se trouve Dieu, comment il agit dans ma vie, il faut d'abord que je sache un petit peu qui je suis. Et les béatitudes n'apportent pas tant des actes à poser où on imagine d'aller tout quitter pour vivre pauvre, chercher à être opprimé, chercher à être frappé, chercher à être humilié. Non, ça serait presque un sacrilège que de chercher ces choses-là. Ça serait presque même un péché vis-à-vis de tous les biens que Dieu nous accorde. Ce que Dieu nous propose, c'est de regarder notre vie avec réalisme et de l'accueillir. La béatitude, qu'est-ce que la béatitude ? Sinon, se savoir comblé des bénédictions de Dieu. Bénir, ça veut dire du bien ou donner du bien. Qu'est-ce que la béatitude ? Sinon, cette espèce d'assurance ferme que Dieu vient à mon secours. Je ne sais pas pourquoi je souffre, je suis révolté, je suis scandalisé, mais j'ai la ferme assurance que Dieu vient à mon aide. Pardonnez-moi cette image, mais c'est bien gentil de connaître un médecin. C'est bien gentil de jouer au bridge avec un médecin. C'est bien gentil d'avoir un ami médecin. Mais ça ne fait pas tellement avancer les choses en tant que médecin. Par contre, si je connais le médecin un jour parce qu'il m'a soigné, parce qu'il m'a délivré de ma maladie, eh bien là, ma relation au médecin est tout autre. Elle est pleine de gratitude, pleine de reconnaissance. Et mon amour a vraiment pu grandir. La béatitude, finalement, c'est la joie de celui qui souffre, peut-être, mais qui a l'assurance d'être sauvé par Dieu. Pour cela, permettez-moi de faire un tout petit détour par la question de la justice. Beaucoup de gens qui souffrent, moi-même, quand je souffre, j'ai souvent l'impression d'être victime d'injustice. Alors là, j'attaque, je mords, je dénonce, je condamne. Et Dieu, en général, fait partie des premiers rangs. Qu'est-ce que la justice ? Nous aurions tort, nous sommes un petit peu déformés, c'est notre côté encore un petit peu enfantin, puéril. Nous aurions tort de voir Dieu avec sa grande balance et son épée qui va découper, châtier, trancher dans tout ce qui dépasse. La justice de Dieu n'est pas là pour condamner, elle est là pour bénir. Parce que la justice de Dieu est orientée vers une seule chose, c'est mon bien. La justice de Dieu n'est faite que pour une seule chose, c'est ma misère, parce que Dieu est miséricordieux. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Ça pourrait vraiment dire que le bon Dieu est très très près de la veuve. Il est presque en elle-même. Sa justice ne prendra jamais parti pour les riches, pour les violents. Sa justice prend parti pour la libération des enchaînés, pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Oui, Dieu aime le juste parce qu'il aime ce peuple qui se confie en sa miséricorde. Et cette justice va cultiver le paradoxe. Elle dit qu'elle n'aime pas les sages de ce monde, les sages aux yeux des hommes, toutes ces étoiles, tout ce qui est parfait, tout ce qui est rutilant, brillant, réussi, tout ce qui est achevé apparemment. Dieu est, dans le sens de haïr, la suffisance des superbes. Dieu a horreur des orgueilleux dans leur principe d'autonomie. Dieu aime qui s'appuie sur lui. Dieu est bon, un peu comme un père et une mère sont bons. Dieu est bon, et comme la bonté est diffusive de soi, on ne peut pas la garder pour soi-même. La bonté est un principe, si on peut dire, qui doit se partager. Dieu ne peut faire autrement que de chercher à nous partager sa bonté. On est là bien loin de ce Dieu justicier qui condamne, qui découpe et qui châtie. Dieu, quand il est empêché dans une créature de faire du bien, d'être bon, eh bien c'est un péché dont il a horreur. Si on estime ne pas avoir besoin de lui, eh bien Dieu se retire discrètement, il respecte notre liberté. Et là peut-être, nous pouvons nous sentir très seuls, comme un fils abandonné, voire même peut-être comme un fils qui n'a jamais été engendré. En effet, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, et ce qu'il y a de fou, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Alors, ne doutons pas de la bonté de Dieu à notre égard. Dieu surtout n'est pas méchant. Cessons de l'accuser de tous nos déboires. C'est ce que nous propose le prophète Sophonie pour dire que finalement la vengeance de Dieu est toujours uniquement contre le mal, contre tout ce qui abîme ses enfants. Dieu est un Dieu jaloux, un père violent quand ses enfants souffrent. Parce que Dieu ne prend jamais son parti de l'humiliation des petits. Bien au contraire, il prend parti pour les pauvres, les humbles, ceux que l'on appelle les anawim. Littéralement en hébreu, c'est les courbés, ceux qui sont écrasés par le poids du fardeau. À cela, Dieu veut dire, redressez-vous, relevez la tête, car moi, votre Dieu, votre Père, je suis avec vous. Mais quand nous lisons les béatitudes, évitons peut-être l'écueil d'idéaliser les pauvres, comme beaucoup ont pu le faire dans l'histoire. Évitons d'idéaliser les pauvres pour condamner les riches, pour les opposer. Il ne s'agit pas là de deux catégories de personnes, bien sûr. Il se s'agit finalement d'une division en nous-mêmes, un petit peu comme deux attitudes que nous avons bien souvent. C'est en ce sens qu'Israël peut s'enorgueillir d'être le petit reste, le peuple qui apparemment a été choisi par Dieu, qui apparemment se sent abandonné par Dieu. C'est que cette foi, cette assurance que Dieu veut son bien, que Dieu est bon, c'est cette assurance que Dieu est là, pourra dire d'Israël que c'est un peuple fidèle qui garde toute espérance. Et on pourra le nommer ainsi comme un peuple humble, pauvre, qui aura pour seul et unique refuge le nom du Seigneur. C'est ainsi que notre psaume, après avoir décrit toutes les misères à laquelle Dieu vient à notre aide, eh bien le psalmiste pourra conclure, eh bien voilà, le Seigneur est ton Dieu pour toujours, et la ferme assurance qui viendra pour chacune de tes souffrances. Alors à nous de demeurer dans une attitude d'humilité face à la souffrance. Acceptons la réalité, acceptons de souffrir et acceptons d'avoir mal, acceptons d'être insatisfaits et déçus de nos actes, de nos projets, mais réjouissons-nous de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous avons quelqu'un avec qui les partager et quelqu'un avec qui, si on peut dire, faire gagner la lumière sur les ténèbres. Dieu ne demande pas de tout abandonner pour le suivre. Dieu ne demande pas d'abandonner nos richesses matérielles pour le suivre. Dieu demande juste de pouvoir relire chacune de ces béatitudes. Parce que la sagesse de Dieu est un peu paradoxale. C'est peut-être là où nous souffrons le plus, où nous sommes le plus dépendants. C'est peut-être là où nous cherchons le plus à solutionner nos problèmes qu'il faut accepter de dépendre de Dieu. Alors, je nous invite à relire tout au long de cette semaine chacune de ces béatitudes, peut-être en prendre une par jour, je crois qu'il y en a 9 dans notre évangile, pour voir comment nous pouvons accueillir. Alors peut-être que nous ne sommes pas opprimés, peut-être que nous ne sommes pas en train de pleurer, peut-être que nous ne sommes pas victimes d'injustice ou affamés, mais cherchons à regarder un petit peu ce que cela veut dire derrière. Ces béatitudes sont comme autant de vertus, comme autant de bonnes attitudes chrétiennes à avoir dans ce monde. Ce sont autant de signes d'espérance dans ce monde parfois désespéré. Et si vraiment nous voulons nous unir à notre pays, à nos contemporains, pour célébrer aussi ce 20h du soir, eh bien, regardons-le avec foi. Et si cela dure 30 minutes, eh bien, prenons aussi 30 minutes, peut-être, de prière, de solitude, pour relire tous ces événements, pour les transfigurer, pour retirer l'aspect dramatique, catastrophique, émotionnel, pour les offrir au Seigneur, comme le font tous les contemplatifs du monde. Demandons au Seigneur d'être capable de regarder la veuve pleurer, de ne pas nous en scandaliser, de ne pas chercher forcément à la consoler, mais d'être capable de supporter ses larmes. Soyons suffisamment proches de cette veuve qui pleure pour qu'ainsi ses larmes coulent sur nos propres joues. Et ainsi elle ne sera plus seule, ainsi je ne serai plus seul, et ainsi cette veuve ne sera plus un scandale. Amen.